les difficultés économiques que rencontre son pays.
Au micro, Idrissa Seloudia, bonjour, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. En Éthiopie, les forces rebelles ont lancé une nouvelle offensive dans la région du Tigré, a déclaré ce mardi à l'AFP un porte-parole des rebelles, moins de 2 semaines après une première offensive qui a poussé le gouvernement à déclarer un cessez-le-feu. Hier, nous avons lancé une offensive dans la région de Raya et nous sommes parvenus à mettre en déroute les divisions des forces de défense fédérale et des forces Amara, a affirmé à l'AFP Getachew Reda, ajoutant contrôler Alamata, principale ville de cette zone. En Afrique du Sud, l'armée a été appelée en renfort hier pour contenir les débordements dans le pays. Michel Joseph fera le point. Au Tchad, la junte au pouvoir depuis la mort du président Idriss Déby Itno a autorisé pour la première fois une manifestation de l'opposition la plus critique prévue vendredi, selon un arrêté hier du ministre de la Sécurité publique. Des associations de la société civile et le parti Les Transformateurs de l'opposant succès Masra appellent à manifester à N'Djamena contre les violations systématiques des droits de l'homme et l'accaparement du pouvoir par le Conseil militaire de transition, a déclaré à l'AFP Mahamat Nour Ahmed Ibedou, l'un des organisateurs de cette marche. Le journaliste marocain Souleyman Raissouni, condamné vendredi à 5 ans de prison pour agression sexuelle et en grève de la faim depuis 96 jours, a bénéficié d'un procès équitable et a été poursuivi pour des délits qui n'ont rien à voir avec son travail journalistique, a assuré hier le ministère public. Pour leur part, les États-Unis se sont dit hier déçus par sa condamnation, appelant leur allié marocain à protéger la liberté de la presse. Washington a également évoqué les cas d'autres journalistes marocains emprisonnés, comme Omar Radi, poursuivi pour viol et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Coronavirus en Afrique du Sud, la plupart des restrictions prises fin juin vont être prolongées jusqu'à fin juillet, mais les restaurants et salles de sport vont pouvoir rouvrir s'ils respectent certaines contraintes, a annoncé le président Cyril Ramaphosa. Le pays africain le plus touché a enregistré une moyenne de 60 000 cas par jour ces 2 dernières semaines. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dénoncé ce lundi la cupidité de ceux qui pensent déjà à l'injection d'une 3e dose de vaccin anti-Covid, dont la nécessité est loin d'être prouvée scientifiquement, quand une bonne partie du monde attend son premier vaccin. La pandémie qui a fait au moins 4,035 millions de morts a contribué à une envolée du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde en 2020 et aura des effets à long terme sur la sécurité alimentaire mondiale, a averti hier la FAO, l'agence de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation. Au moins 60 patients ont trouvé la mort lundi dans un incendie qui a ravagé l'unité Covid d'un hôpital de Nasiriyah, dans le sud de l'Irak, ont indiqué les autorités 2 mois et demi après une tragédie similaire qui avait fait plus de 80 morts dans un hôpital de Bagdad. Le président américain Joe Biden a mis en garde hier la Havane contre toute répression de l'appel vibrant à la liberté du peuple cubain au lendemain de manifestations anti-régime sur l'île qui ont sans surprise été applaudi par le camp républicain, son prédécesseur Donald Trump en tête. M. Biden appelle le gouvernement cubain à se garder de toute violence et de toute tentative de réduire au silence le peuple de Cuba. Pour sa part, son homologue cubain Miguel Díaz-Canel a imputé hier aux sanctions américaines renforcées ces dernières années par M. Trump les difficultés économiques que rencontre son pays, avec notamment des pénuries de médicaments et des pannes régulières d'électricité à l'origine de manifestations inédites depuis des décennies au cours du week-end. L'embargo américain permet le passage de l'aide humanitaire, souligne Washington. Et le secrétaire d'État Anthony Blinken a lui estimé que le président cubain commettrait une grave erreur en attribuant aux États-Unis la responsabilité des manifestations. La suite de nos informations. En Afrique du Sud, l'armée a été appelée hier en renfort pour contenir les débordements au quatrième jour de violence initialement déclenchée par l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma et qui ont fait 10 morts. Le point avec Michel Joseph.
Cyril Ramaphosa, dans son discours hier, a souligné le caractère inédit de ces violences, estimant que les frustrations et la colère ont des racines politiques. Mais aucune cause ne peut les justifier. Il a promis de restaurer le calme. Les incidents ont éclaté vendredi au KwaZulu-Natal, la région d'origine de l'ancien président Jacob Zuma. Il s'est constitué prisonnier après avoir été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Puis, l'agitation a gagné les quartiers pauvres de Johannesburg, mais pour d'autres raisons. Il y a eu des scènes de pillage, de magasins éventrés et des voitures calcinées. Pour tenter de rétablir le calme, les hélicoptères de la police survolent la mégapole et l'armée est venue à la rescousse. À Pietermaritzburg aussi, des soldats patrouillent parmi les débris. À Soweto, les mêmes scènes se sont répétées. La police dit mener une enquête sur les circonstances dans lesquelles 10 personnes ont trouvé la mort, dont 6 dans la région de Johannesburg et 4 en pays Zoulou. Lundi, une audience virtuelle de la Cour constitutionnelle, celle qui a condamné M. Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice, a débattu de sa peine pendant 10 heures, puis a mis son jugement en délibéré sans préciser de date.
En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir a dénoncé hier une alliance de dupes entre les deux anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié au surlendemain de leur rencontre. Les membres du RHDP estiment qu'il n'y avait pas besoin d'un dialogue national dans le pays. Les détails avec Rosine Mounizero.
C'est une alliance circonstancielle qui n'ira pas loin, une alliance de dupes, a affirmé Adama Big Togo, directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, lors d'une conférence de presse à Abidjan. La CPI a pris une décision, mais nous ne sommes pas amnésiques. Il y a un minimum de repentance à faire. M. Gbagbo ne peut pas nous donner de leçons de respect des textes ni de démocratie, a lancé M. Big Togo. Samedi dernier, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, anciens rivaux, se sont rencontrés à Daoukro, dans le centre du pays, s'affichant unis comme les principaux opposants au président Alassane Ouattara. L'ancien président Gbagbo, rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin à la suite de son acquittement par la CPI, a notamment appelé à respecter les textes, critiquant le président Ouattara réélu pour son troisième mandat controversé. L'opposition avait boycotté l'élection présidentielle, estimant que ce nouveau mandat était inconstitutionnel.
Ici aux États-Unis, les autorités ont exhorté lundi les habitants de l'Ouest américain à limiter leur consommation électrique face à une vague de chaleur sans précédent et une sécheresse persistante qui a vu les feux de forêt se multiplier. Le point avec Jean-Roger Bion.
Après des pointes de 52 à 54 degrés Celsius ce week-end, le mercure pourrait encore frôler des records par endroits en Californie. Les habitants de cet État ont tous été invités hier à débrancher leurs appareils inutiles, couper leur climatisation et leur four de 16h à 21h locales afin de rationner volontairement la consommation d'électricité face à une canicule sans précédent. La cinquième puissance économique mondiale, aux infrastructures électriques toutefois vieillissantes, veut éviter de plonger à nouveau des millions de personnes dans le noir, comme ce fut le cas les années précédentes. La semaine dernière, le gouverneur a donc exhorté la population à réduire sa consommation d'eau de 15% en diminuant par exemple l'arrosage des pelouses et en prenant des douches plus courtes. Le nord de la Californie est ravagé par de multiples feux de forêt attisés par la chaleur et des vents croissants. Les feux ont déjà détruit plus de 36 000 hectares en Californie et quelques 60 000 hectares dans l'État voisin de l'Oregon. Deux pompiers de l'Arizona sont morts ce week-end dans l'écrasement de leur avion lors d'une mission de surveillance des feux et l'été risque d'être torride et très long.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon le rapport de la Commission de l'Union européenne sur l'importation de produits biologiques, le Togo est le premier exportateur de soja bio vers l'Europe avec plus de 50 000 tonnes en 2020. Par rapport à 2019, l'exportation de produits bio du Togo vers l'espace Schengen a augmenté de 20%, de 51% pour la Côte d'Ivoire, 56% pour la République démocratique du Congo, plus de 200% pour le Bénin et 37% pour la Tunisie, premier exportateur d'huile d'olive vers l'Europe. La compagnie minière Tieto Minerals a augmenté les ressources de son projet aurifère d'Abuja en Côte d'Ivoire. La société australienne a publié une nouvelle estimation avec une hausse de 11% sur ce site à 30 km de Deloa. Ces chiffres sont intervenus après un effort massif de forage au diamant de 255 trous, totalisant 53 500 mètres depuis octobre, indique le journal The West Australian. Un énorme diamant brut a été découvert au Botswana, indiqué la société canadienne Lucara lors de sa présentation au gouvernement à Gaborone. La pierre précieuse de 1174 carats découverte le 12 juin vole la troisième place des plus gros diamants à celle trouvée le 1er juin dans le même pays. 6 des plus gros diamants au monde ont été découverts au Botswana.
Merci Nathalie. Et maintenant les sports avec Nani Talani.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. La FIFA menace de suspendre le Cameroun à cause de l'ingérence de l'État due à une lettre du ministre camerounais des Sports qui tente d'empêcher la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT prévue aujourd'hui 13 juillet à Yaoundé. Dans l'hypothèse où cette assemblée ne serait pas organisée comme prévu et où les textes révisés en collaboration avec la FIFA ne pourraient donc pas être adoptés, nous serions contraints de présenter la situation de la FECAFOOT aux organes compétents de la FIFA pour considération et prise de décision, ont écrit la FIFA et la CAF, citées par Sport News Africa. Cette mise en garde fait suite à une lettre du ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouélé-Kombi, datée du 8 juillet, qui demande à la fédération de sursoir à la tenue de cette assemblée dont l'ordre du jour porte sur l'adoption des nouveaux textes. Le ministre évoque le non-respect des textes en vigueur et de l'esprit des sentences rendues par le tribunal arbitral du sport le 15 janvier et de la chambre de conciliation et d'arbitrage du 10 juin 2021, induisant l'illégitimité des membres convoqué à cette assemblée générale. Ballon d'or africain 2021, qui va succéder à Sadio Mané. La rédaction d'Afrique Sport a dressé la liste des 10 favoris au sacre. Édouard Mendy arrive en tête du classement. Champion d'Europe avec Chelsea, le gardien international sénégalais a réalisé une bonne saison avec son club. L'ancien Rennais est suivi de Riyad Mahrez. L'international algérien est devenu au fil des semaines un élément clé du dispositif offensif de Pep Guardiola. Même s'il n'a pas connu une grande année avec Liverpool, Mohamed Salah a tiré son épingle du jeu en terminant meilleur buteur des Reds. Une qualification en Ligue des Champions arrachée en toute fin de saison avec Liverpool le propulse à la troisième place du classement. Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain, le Marocain Achraf Hakimi, occupe la quatrième place. L'international ivoirien Franck Kessier est sixième du classement. Il est suivi de Sadio Mané, auteur d'une décevante saison avec Liverpool. L'attaquant du FC Séville, Youssef El-Nessiri, est neuvième du classement. Enfin, l'ailier marocain Hakim Ziyech pointe à la dixième place, malgré la Ligue des Champions reportée avec Chelsea. Pour terminer, direction la République démocratique du Congo. Le tournoi international de basketball 3x3 Salamatou Maïga revient après 2 ans d'absence. La 4e édition de cette compétition destinée aux moins de 18 ans aura lieu à Kinshasa du 16 au 18 juillet avec la participation de 9 pays, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Mali, le Kenya, le Rwanda, la Gambie, le Zimbabwe, le Djibouti et les Comores. C'est tout, Idrissa.
Merci, Nani.
Votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique. Claire Moragibon avec vous. L'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Montsego, est mort dimanche à 81 ans. Il aura joué un rôle de premier plan dans la démocratisation de l'ancien Zaïre, puis de la République démocratique du Congo. En République centrafricaine, ceux qui sont surnommés les 300 de Bangui, un catholique, un musulman et un protestant, ont tout fait pour que la crise politique ne se transforme pas en guerre de religion. Au Mali, l'imam Mahmoud Diko a beaucoup d'influence sur la scène politique. Et au Sénégal, les grands marabouts ont toujours leur mot à dire pour élire le président. La religion et la politique, comment ça se passe dans votre pays et qu'en pensez-vous? À votre avis, c'est à 18h, temps universel sur l'antenne de VOA Afrique. Venez en discuter en direct en appelant le 001 202 205 2633. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05, temps universel.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sevilla. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La France a annoncé la fermeture de ses bases militaires de Tombouctou, Tessalit et Kidal. Le président Emmanuel Macron l'a déclaré vendredi dernier lors d'un sommet du G5 Sahel. Cette décision a suscité beaucoup de réactions au Mali. Reportage de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Après avoir annoncé la fin de l'opération Barkhane il y a un mois, le président français Emmanuel Macron vient de donner plus de détails sur sa matérialisation. Il s'agira selon lui, dans un premier temps, de la fermeture des bases militaires à travers le Sahel, dont trois au Mali, que sont les bases de Tombouctou, Tessalit et Kidal. Une décision diversement appréciée au sein de la population malienne.
Moi, de mon point de vue, ce ne serait pas quand même une bonne chose de la fermeture de ses bases progressivement. Donc moi je pense que le gouvernement français devait quand même se concerter avec le gouvernement malien afin de pouvoir prendre les mesures idoines avant de fermer ses bases quoi.
Et moi je pense que ça c'est une offre. Et pour moi c'est un non évidemment. Un non évidemment pourquoi? Parce que ces bases militaires que la France a en tout cas quand on ferme, ce sont les bases militaires que, en tout cas personnellement, que moi j'ai pas senti. Si ces bases militaires existaient auparavant et si elles jouaient réellement le rôle en tout cas qui leur ont été assignés, on n'allait pas en tout cas voir ces attaques perpétrées en tout cas non loin des localités où se trouvent ces bases militaires.
Le dispositif actuel qui est de 5100 militaires est réparti entre les bases des pays du G5 Sahel, Tchad, Mauritanie, Burkina, Mali et Niger. Pour Mohamedou Dabou Traoré, membre du bureau jeunesse du parti politique Asma CFP de l'ancien premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga, cette décision ne doit pas paniquer les Maliens car d'autres alternatives existent.
Aujourd'hui, avec malgré la présence de cette base, malgré la présence de l'aménagement, nous avons assisté à une dissémination de ces terroristes au centre du Mali, voire jusqu'au sud. Donc, si aujourd'hui la France veut fermer ses bases, eh bien, qu'elle ferme ses bases, c'est une décision souveraine. Nous devons trouver d'autres voies et moyens afin d'arriver à une véritable paix, à une véritable sécurité. Entre autres, il y a le dialogue aussi, il y aura aussi l'option militaire avec d'autres pays.
Les bases maliennes qui vont fermer au Mali d'ici au début de l'année 2022, selon Emmanuel Macron, sont toutes situées au nord du pays où sévit encore le terrorisme. Loin d'un retrait définitif, il s'agit, selon le politologue Boubacar Bokoum, de l'adoption d'une nouvelle stratégie à travers la Task Force Takuba pour être plus efficace dans la lutte contre le terrorisme.
Ce qu'il faut comprendre dans ce retrait, il ne s'agit pas d'un retrait systématique, il s'agit juste de réajuster et d'avoir un équilibre pour avoir plus d'efficacité en réalité. Donc en termes d'incidence, je pense que dès lors que la coopération militaire est rétablie, que éventuellement nous avons les forces Task Takuba qui sont en gestation, je pense puisque le mécanisme opérationnel de la sécurisation du pays est toujours en cours. Donc je ne pense pas que cela puisse avoir une incidence toute particulière. C'est juste un réajustement, une réorientation stratégique de la question de la sécurité.
Au moment où la fermeture des bases militaires au Sahel est annoncée par Emmanuel Macron, celle destinée à l'appui aérien, basée à Niamey, au Niger, où stationnent les avions de combat et les drones Reapers, sera renforcée. Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
La société civile africaine en guerre contre le troisième mandat, quelques 150 participants ont pris part à un sommet citoyen sur la bonne gouvernance à Cotonou qui a pris fin ce week-end. Ils ont réitéré leur engagement à se mobiliser contre les modifications constitutionnelles et les troisièmes mandats en Afrique. Le président béninois Patrice Talon, dont le pays accueillait la rencontre, a promis de ne pas se présenter en troisième mandat. Sur les conclusions de la rencontre, Abdourahman Dia, adjoint à Libreville, Marc Ona, président de l'ONG, tournons la page.
Nous constatons qu'il y a un recul démocratique. Je vais prendre quelques exemples. C'est le Togo qui a ouvert le bal avec le non-respect de cette disposition sous-régionale qui refuse un troisième mandat, c'est-à-dire la modification constitutionnelle. Et puis nous avons vécu ce qui s'est passé en Guinée, où le président Condé s'est imposé à modifier la constitution pour s'offrir un troisième mandat. Et le cas le plus emblématique, hein, c'est Alassane Ouattara, qui au départ annonce qu'il ne va pas se présenter, et suite à la mort de son premier ministre, il fait un trop pédalage pour se présenter finalement. Donc du coup, nous, au niveau de la sous-région d'Afrique de l'Ouest et surtout au niveau panafricain, nous redoutons que cette pratique soit, fasse tache d'huile dans tous les autres pays. Alors que l'Afrique de l'Ouest, pour le moment, était un exemple de non seulement d'alternance au sommet de l'État, mais aussi de bonne gouvernance.
Justement, la limitation des mandats présidentiels était un des points importants de cette rencontre. Mais qu'est-ce qui empêcherait des présidents en exercice de suivre les pas de leurs homologues qui ont tenté et réussi à changer les constitutions de leur pays pour briguer un troisième mandat?
C'est pour ça que nous appelons à la mobilisation des peuples. Nous appelons à la mobilisation des peuples pour s'opposer à cette modification constitutionnelle, pour ne pas prendre le mauvais exemple d'Afrique centrale où les chefs d'État ils font tout pour s'éterniser au pouvoir. Je prends le cas du Gabon, du Cameroun, du Congo, de la Guinée équatoriale, du Congo-Brazzaville, où effectivement, mourir au pouvoir est devenu la règle. Or, l'alternance au pouvoir est un gage du développement.
Certains diraient qu'on se focalise beaucoup sur la fonction de président de la République. Il y a aussi les autres institutions comme le judiciaire ou le législatif qui ont besoin d'être renforcées et qui ont besoin d'exercer leur indépendance vis-à-vis de l'exécutif, comme le disent beaucoup d'analystes. Qu'est-ce que la société civile peut faire à ce niveau?
C'est ce qui est mentionné sur le papier. Mais sauf que dans les régimes présidentiels très 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 forts, le président à lui seul qui constitue une institution, une seule institution a la même mise sur les autres institutions. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui arriver à avoir des institutions indépendantes. Nous ne pouvons pas aujourd'hui à faire en sorte que le pouvoir judiciaire soit réellement indépendant. Tout simplement parce que une seule institution, le président de la République, nomme les membres de ces institutions. Et beaucoup de membres ne peuvent caler dans le sens du président de la République.
C'était Marc Ona, président de l'ONG. Tournons la page.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain,
sur la chaîne 555 de Canal+.
Depuis quelques semaines, le Sénégal dispose de l'un des data centers les plus modernes de la région et espère se positionner en hub numérique. L'infrastructure permet de stocker les données d'administration et du secteur privé. Elle est présentée comme un outil de souveraineté numérique, une révolution qui doit permettre de faciliter la dématérialisation des démarches administratives, un projet réalisé avec la coopération chinoise. Visite de ce data center avec Alison Lekogo Fernandez et Maïndir.
Nous sommes à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Cette ville nouvelle, qui sort de terre depuis 2014, abrite d'importants projets étatiques. C'est ici qu'un data center de dernière génération a récemment été inauguré après 3 années de travaux. De type tiers 3, il est construit sur une superficie d'un hectare pour un coût de 10 milliards de francs CFA. Sa mission, conserver et centraliser les données de l'administration sénégalaise, mais aussi celles du secteur privé. En salle des opérations, Tidiane Fall mesure les performances et détecte d'éventuelles anomalies sur le réseau.
Le rôle du data center de manière globale, ce sera de faire la migration de l'ensemble des données de l'administration qui étaient soit au niveau national, mais chez des privés ou des particuliers, mais aussi à l'extérieur. Il est très important qu'on ait assez de stockage, donc qu'on ait vraiment une capacité de stockage très importante, mais aussi qu'on ait un réseau qui est très résilient.
Le data center de Diamniadio dispose d'une capacité de stockage de 2000 teraoctets. Et concernant le réseau, d'ici la fin de l'année, le centre sera relié à un câble sous-marin. Le data center pourra alors avoir accès à la bande passante internationale sans dépendre des opérateurs téléphoniques. Une manière pour le Sénégal d'asseoir sa souveraineté numérique.
C'était incontournable de mettre en place ce data center. On ne peut pas parler de souveraineté numérique, d'hébergement, de cloud, et que le Sénégal ne dispose pas d'un data center de type tier 3. Donc c'était réfléchi et depuis un certain temps.
Une infrastructure réalisée avec la coopération de la Chine qui a prêté 84 milliards de francs CFA au Sénégal dans le cadre du projet Smart Sénégal destiné à démocratiser l'accès au numérique. C'est d'ailleurs le groupe chinois Huawei qui a équipé le data center. Papa Madumbay est l'ingénieur chargé d'assurer la sécurité, à la fois physique mais aussi virtuelle, du centre.
Contrairement peut-être à une idée qui a été reçue, même si Huawei a été le fournisseur de certains équipements, aujourd'hui l'exploitation est totalement faite par les ingénieurs sénégalais en mettant en place des mesures de sécurité pour vraiment assurer la sûreté de ces données-là.
Avec le parc des technologies numériques actuellement en construction à quelques dizaines de mètres du data center, l'ambition des autorités sénégalaises est de faire de Diamniadio le pilier durable du système de transformation numérique du pays, dans un esprit de partenariat public-privé. Alice Nekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, job bless, peace out.
Every time the sun goes down, I let you take control.
c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seboudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.